Bonsoir. 13e émission de Qui suis-je ? Qui sera, elle, contrairement aux autres, marquée par l'actualité brûlante. J'anime cette émission pour débattre de questions de société, mais jamais sous la pression de l'actu. J'évite le temps court qui est malsain à mon sens. Mais aujourd'hui, l'actu s'impose, ici en Alsace, avec un événement politique majeur. Le titre de l'émission, Qui suis-je ? Me permet, vous le savez, de me présenter par petites touches, émission par émission. Je suis autodidacte, 15 ans comme restaurateur à la Cruteno, 15 ans d'accompagnement de dirigeants d'entreprise dans à peu près 40 secteurs différents, et j'ai nourri une approche personnelle de la politique, celle simplement d'un citoyen du terrain, très éloigné du système politico-médiatique et des enjeux souvent trop politiciens. Donc, ce soir, on ne parlera que de politique avec un grand P et pas de chamaillerie politicienne qui sont assez fortes actuellement, l'Alsace excitant toutes les convoitises. Je ne vous dis pas toutes les pressions inimaginables pour parler ce soir politique politicienne. Eh ben non, on va essayer d'élever le débat. Je veux encore dire que je ne suis pas journaliste et donc je me permettrai aussi de débattre avec mon invité et pas de me limiter à poser des questions. Ceci ayant été dit, l'actu brûlante, vous le savez, chères auditrices et chers auditeurs, c'est qu'il vous reste 6 jours pour aller voter à une consultation politique sur l'avenir et la place de l'Alsace dans nos institutions. Consultation éminemment politique, qui renvoie à plein de sujets locaux, mais aussi nationaux et européens. J'ai la grande chance aujourd'hui d'avoir comme invité une personnalité politique qui, en tant que citoyen, justement, m'a donné envie d'échanger avec lui. Ce qui m'a intéressé, c'est son volontarisme, car c'est cela que nous attendons des politiques, qu'ils sortent des sentiers battus, qu'ils se mouillent, qu'ils secouent le cocotier. Les institutions, les lois, les décrets oppressent la société. Ainsi, ce qui m'a amené à cette émission ce soir, c'est le volontarisme de mon invité qui a bousculé toutes les règles, dont les règles institutionnelles, pour imposer une question centrale, évidente, que tous les Alsaciens attendaient. L'Alsace doit-elle sortir de la région Grand Est ? Nous sommes donc ici, au siège de la Communauté européenne d'Alsace, nous, à Strasbourg. Nous sommes reçus par son président, Frédéric Bierry. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Il y a une tradition dans mon émission, c'est que je tutoie mon invité et que mon invité me tutoie.
Avec plaisir.
Merci, merci beaucoup. C'est évidemment tout simplement une démarche fraternelle. J'aime à dire, pour ceux qui n'ont toujours pas compris le sens de ce tutoiement, qu'en hébreu, en anglais, il n'y a pas de distinction entre le vouvoiement et le tutoiement. Donc pour moi, c'est tout simplement des raisons fraternelles. Il y a une deuxième tradition, Frédéric, c'est que je demande à mon invité de prononcer le titre de mon émission, Qui suis-je, et de se présenter. C'est à toi.
Qui suis-je ? Alors, Frédéric Bierry. J'ai l'honneur d'être le président de la collectivité européenne d'Alsace, vous savez, qui a rassemblé les deux anciens conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et qui porte les politiques publiques au service des habitants. J'ai 55 ans, j'ai 3 filles.
Super. Et
avant d'être président d'abord du Bas-Rhin, ensuite de la collectivité européenne d'Alsace, j'ai été maire de Schirmeck pendant près de 20 ans. Toutes mes racines sont à Schirmeck, dans la vallée de la Bruche.
Très bien. Tu es marié ?
Je suis paxé.
Paxé, super. Donc tu as 3 filles. Oui. Elles ont quel âge ?
Alors, 27, 21 et 20.
Super. Et elles sont déjà engagées en politique ?
Alors, elles ne sont pas engagées en politique. Enfin, la plus jeune, Elisa, elle est en deuxième année de Sciences Po. Donc on peut
D'accord.
dire qu'elle a quand même un intérêt pour la vie politique.
Génial. Ton parcours, en quelques mots, tu as fait quelles études ?
Alors, j'ai fait un bac économique et social au lycée Jean Monnet à Strasbourg. suivi d'un diplôme, un DEUG en administration économique et sociale. AES, c'est cela. Et ensuite, une licence et une maîtrise en droit.
D'accord, très bien.
Et j'ai eu le bonheur d'être pendant quelques années prof de sciences économiques et sociales en tant que maître auxiliaire. Et puis ensuite, au gré des rencontres, j'ai pu devenir attaché parlementaire pendant 20 ans d'un député qui s'appelle Alain Ferry, qui est maire encore de Viche. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis je suis devenu en 1995 maire. Et j'ai été jusqu'en 2015 maire de la ville de Schirmeck.
Ton mentor en politique, on va dire local et peut-être au niveau national ou même international.
Ah, c'est une bonne question. alors bon, j'ai beaucoup appris. Je disais avec Alain Ferry localement, ça a été un grand député du territoire de la Vallée de la Bruche. Il a porté beaucoup de projets. Bon, et il était en même temps chef d'entreprise. Et donc moi qui ne connaissais pas forcément bien le monde économique, j'ai beaucoup appris à ses côtés. J'avoue que à l'international, il y a un élu. C'est Gandhi qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect.
Je me permets de te couper. Ouais. Je rappelle qu'il y a une statue de Gandhi à Strasbourg, place au Parc de l'Étoile, que malheureusement à peu près la totalité des Strasbourgeois ne connaissent pas. Et j'invite les Strasbourgeois à aller se balader là-bas et aller voir cette très très belle statue de Gandhi.
J'ai aimé en fait son courage, sa détermination et sa simplicité, son humilité.
Évidemment. Tu parles alsacien ?
Non, parce que dans la vallée d'Avruche, on parlait le patois, un patois welche.
Ah, d'accord. Et
donc, du coup, je comprends un petit peu.
Oui.
Mais et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis très attaché au bilinguisme et à l'alsacien, parce que justement, j'ai souffert de malheureusement pas bien le connaître. Et donc, je ne voudrais pas que les jeunes générations aient à souffrir des mêmes difficultés que moi.
Tu es membre d'un parti politique ?
Alors, j'ai été... pendant longtemps membre des Républicains. J'étais à un moment donné président du Parti radical valoisien il y a quelques années quand j'étais plus jeune.
D'accord.
Mais aujourd'hui, j'ai bien sûr des valeurs de droite et du centre. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je suis apparenté. Je n'ai plus de carte politique.
D'accord. Alors, tu viens de terminer un tour d'Alsace en 80 jours. Qui t'a fait rencontrer des centaines, des milliers de personnes. Alors, j'ai juste quelques questions très simples. Est-ce que ces rencontres ont fait changer tes projets, va changer tes réorientations dans tes actions, voire en supprimer quelques-unes ? Qu'as-tu tiré de ce tour d'Alsace en 80 jours ?
Alors, c'était très important pour moi d'aller à la rencontre des habitants. Pourquoi ? D'abord parce qu'on aurait pu se dire, on vient d'être élu, on a été élu en mois de juin, hein, la nouvelle collectivité européenne d'Alsace avec l'ensemble de ses nouveaux élus pour 7 ans. Et donc on aurait pu dire qu'il n'y avait pas forcément nécessité d'aller tout de suite vers les gens, puisqu'on avait eu déjà un moment de débat politique pendant la campagne électorale. Et quand en fait j'ai vu qu'à peine 30% des gens s'étaient déplacés pour aller voter, je me suis dit, il faut qu'on se remette en question. La meilleure façon pour moi de se remettre en question, c'est d'aller écouter les gens et les écouter en profondeur. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai souhaité, avec mes collègues élus de la collectivité, aller à la rencontre des habitants dans chaque territoire. J'ai commencé à Lucelle, le plus petit village d'Alsace, au sud. Et puis, j'ai fini à Strasbourg, la commune la plus importante. Et pour moi, ce qui était essentiel, c'est d'écouter. Mmh. Et j'ai aussi bien été écouter des jeunes que des personnes âgées dans les EHPAD. J'ai été à la fois dans les marchés, mais aussi dans la vie associative. J'ai écouté aussi les agents de la collectivité. J'ai essayé d'avoir une écoute la plus large possible. Et c'est plusieurs milliers de personnes que j'ai pu rencontrer à travers ce parcours. Et pour moi, ça a été très enrichissant. Alors, il y a beaucoup de choses que je pressentais, que j'imaginais, qui ont été confortées dans ces échanges. Hein, parce que j'ai toujours essayé d'être un élu à portée d'engueulade. J'aime bien être sur le territoire et que les gens me disent les choses. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Tout à l'heure, j'étais à Mutzig, au marché à Mutzig, dans mon canton, et j'échangeais avec une dame. Alors, j'avais le bonnet, le masque, etc. Mm-hmm. Et j'échangeais sur la consultation. Et puis, la dame me donnait un certain nombre de... Elle me posait des questions, elle réfléchissait, etc. Et puis, c'était très, très intéressant, l'échange. Et puis, à un moment donné, elle me dit « Qui vous êtes ?»
Ah oui, super.
Et alors, je dis « Je suis Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. » Alors elle me dit, vous êtes le Frédéric Bierry? et elle me dit, mais oh, moi je vous ai dit tout ça. Ben, j'ai dit, justement madame, je viens vers vous pour, vous, ouais, pour que vous me disiez les choses. Ça, ouais. Je suis là pour ça, et pour expliquer, pour comprendre et écouter. Et puis, donc ça a été enrichissant sur beaucoup de sujets. J'ai des inquiétudes hein, sur des pauvretés qui sont nouvelles. C'est-à-dire que là, je voyais par exemple, à plusieurs endroits, j'ai eu le retour de personnes qui faisaient la manche dans des stations essence. Pour aller travailler. Quoi.
Ouais, bien sûr. Pour aller travailler.
Pour aller travailler, donc remplir le jerrycan pour aller travailler. Donc, ces pauvretés qui augmentent avec le coût des carburants, le coût de l'énergie, tout ça. Enfin, j'ai des vraies inquiétudes sur un certain nombre de sujets qui ont en plus été renforcés.
Et tu penses changer certains axes de ta politique dans les prochains mois suite à ce tour d'Alsace, sans me dire lesquels maintenant, mais...
Ah oui, oui. Alors, de toute façon, il y a un certain nombre de sujets. Alors, par exemple, je vais donner un autre exemple pour moi qui est important. J'ai échangé avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Et je leur ai demandé est-ce qu'ils avaient été votés au mois de juin. 95% m'ont dit qu'ils n'avaient pas voté. Et alors, je leur ai demandé. Et leur réponse, pour moi, elle est très forte. Et ça fait évoluer aussi mes réflexions. Ils m'ont dit trois choses. Un, on ne se sent pas concerné. Alors même que notre collectivité, les compétences que nous assumons, c'est toute la vie quotidienne, à tous les âges de la vie.
Totalement.
Donc, deux... ils m'ont dit on ne se sent pas compétent pour choisir entre les différents candidats. Ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Et oui, parce qu'ils disent on ne nous a pas bien expliqué dans son public, donc on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et c'était la troisième remarque aussi. Et donc, du coup, on ne sait pas comment voter. Donc, on ne vote pas. Et puis ensuite, ils m'ont dit on veut que les modes de vote évoluent. Et c'est
évidemment
un peu ce qu'on fait aussi à travers la consultation.
Totalement. On ne comprend pas pourquoi en France, le vote électronique n'est pas généralisé. C'est totalement hallucinant. Je veux dire, on est en 2022, on est encore à lancer une méthode, alors qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, les jeunes, ils ne vont pas se déplacer dans les urnes. Ce n'est pas leur univers, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas où c'est.
Je crois qu'il faut tenir compte de l'évolution de la société et tenir compte aussi de la façon dont nos concitoyens fonctionnent. Alors c'est pour ça que dans la consultation, par exemple, on a prévu 4 modes, hein, enfin le mode numérique avec le QR code ou la plateforme, le mode vote par correspondance ou les gens qui vont mettre dans les urnes. Donc pour moi, les trois options doivent pouvoir être ouvertes
à
nos concitoyens.
Alors justement, on en arrive à la consultation. Le sujet suivant, évidemment essentiel, qui explique que nous sommes là ce soir. Peux-tu nous donner déjà certains chiffres sur la participation ou c'est confidentiel, tu ne peux pas trop en parler?
Alors, il y a des choses que je sais à peu près, c'est le nombre de votants en numérique, parce que ça, c'est...
Oui,
c'est,
évidemment,
ça,
dans les urnes, c'est plus dur.
Dans les urnes, je ne sais pas, et il y a beaucoup de votes par correspondance, dont je ne mesure pas non plus, non, mais il y a quand même beaucoup de gens qui envoient une enveloppe et un timbre.
Ah oui.
Avec un vote. Ça aussi, pour moi, c'est important. Oui. Parce que il y a eu le débat, est-ce qu'il fallait poser cette question ou pas? Moi, j'ai toujours dit, soit les gens ne répondent pas nombreux. Alors ça voudrait dire que ça ne les intéresse pas et que ce n'est pas important.
Oui, bien sûr.
Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a une vraie mobilisation de nos concitoyens au vote. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, s'il y a 100 000 votants, c'est très important.
On y sera ?
On dépassera.
Ah oui ?
Je sais qu'on dépassera ce chiffre.
D'accord.
Je le sais. Mais aujourd'hui, la mobilisation encore se poursuit. Mais je sais qu'on va le dépasser. Donc, vous savez que si je compare, par exemple, à l'échelon national... À l'échelon national, Monsieur Jadot, il a eu 52 000 voix à l'échelon national pour la primaire. Madame Pécresse, 69 000.
Madame Barzagian a été élue avec 32 000 voix.
Donc, vous voyez, donc, vous imaginez bien, si on dépasse et que ça se confirme, ce sont des chiffres importants. Ça veut dire que les gens se saisissent. Vous savez, moi je considère aujourd'hui qu'on ne peut pas venir vers les électeurs uniquement tous les 6 ans en leur demandant des choses.
Bien sûr.
Sur des choses qui sont importantes pour leur vie quotidienne, moi, je souhaite que la collectivité européenne d'Alsace, on interroge les Alsaciennes et les Alsaciens pour qu'ils puissent dire leur avis. Et je voudrais que leur avis compte, à l'instar des votations suisses.
Est-ce que ta démarche, cette consultation n'est pas quelque part un peu démagogique dans la mesure où il n'y a pas de traduction juridique derrière, puisqu'elle n'est reconnue par aucun texte?
Alors, pour moi, elle doit être un outil d'évolution des pratiques démocratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas de valeur juridique, mais elle a une valeur politique très forte quelques semaines avant les élections présidentielles.
Absolument, le calendrier est extraordinaire.
C'est aussi pour ça qu'on a choisi de la faire maintenant, parce qu'on s'est dit que s'il y avait un nombre de votants important, ce sera le cas,
oui.
Et que la volonté claire des Alsaciens s'exprime, parce qu'il y a deux options. Soit les Alsaciens finalement disent « Ouais, bon, c'est équivalent, 50-50, etc. » Il n'y a pas de volonté forte. Et à ce moment-là, moi, c'est clair, avec mes collègues élus, on referme le dossier
on
passe à autre chose.
Mais
si, par contre, il y a une volonté forte, je ne vois pas comment les candidats au présidentiel ne pourraient pas nous entendre.
Mais alors, justement, quelle sera la suite? Est-ce que la suite sera que tu proposes au candidat devenu président de faire une première grande loi de suppression de toutes les grandes régions? Parce qu'après tout, la création de ces grandes régions, voulue par Hollande, mise en place par Hollande, allait à contre-courant absolument de toute modernité politique. Les gens voulaient de la décentralisation. Là, on a fait de la concentration. C'est une aberration totale. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire bravo pour les grandes régions, si ce n'est les élus. Et souvent, au café, ils disaient le contraire. Donc, il y a là, en effet, un calendrier qui permettrait de proposer, vas-tu proposer au prochain président, au prochain législateur, de dire la première loi à faire, c'est de supprimer les grandes régions.
Alors, la première étape pour moi, au regard des résultats, si les résultats sont très
positifs,
clairs,
oui,
et positifs dans le sens d'un retour à la région Alsace, mon premier objectif, c'est d'aller vers les candidats au présidentiel et leur dire, voilà, les Alsaciens sont exprimés fortement, ils attendent cela, quelle est votre position? Donc j'ai déjà rencontré Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui est chargé par elle de travailler sur tous les enjeux de la République des territoires. J'ai dit encore récemment au président Macron que je souhaitais pouvoir échanger.
Et avec un certain écho.
Avec lui, alors il n'a pas fermé la porte, en tout cas, à ce qu'on échange. Et j'ai confirmé cela par une lettre officielle de demande de rendez-vous. Je ne vois pas comment un élu ou un candidat au présidentiel ne pourrait ne pas nous recevoir et nous écouter si on représente...
Ta demande concerne l'Alsace.
Alors, ma demande, elle est double. Ma demande, elle est même triple, on va dire. Un, je voudrais, moi, que les votations et que la possibilité pour nos concitoyens de s'exprimer et que leur vote soit pris en compte, ça évolue dans notre
Bien
pays.
Bien sûr, comme en Suisse.
La votation suisse, par exemple, sur le pass sanitaire. Les Suisses, nous avons été consultés. 63% des Suisses ont validé la proposition de l'État fédéral.
Bien
et
sûr.
Après, c'est mis en œuvre.
Voilà.
C'est le fait majoritaire. Et on règle le problème. Donc, dans le même esprit, moi, je voudrais que les votations en France soient quelque chose qui se développe. Donc ça, c'est ma première demande. La deuxième demande, c'est qu'on rapproche les décisions des habitants et que la décentralisation, qu'on laisse un vrai pouvoir aux élus en proximité, parce que c'est en partant des réalités du terrain qu'on peut construire une politique qui a du sens. Et la troisième objectif, bien évidemment, c'est le retour à la région, Alsace. Ça, c'est ça, et on peut faire ça les choses simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons créé la collectivité européenne d'Alsace avec les compétences des deux anciens départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il suffirait qu'on nous rajoute les compétences de la région et le problème est réglé. Donc, ça fait le millefeuille, on le réduit, une collectivité de moins.
Évidemment.
Et 60 élus de moins. Donc, c'est aussi des économies. Et c'est plus simple pour les gens. Donc voilà, moi, ce que je défends. Alors après, il faut qu'on soit un tout petit peu attentif aux réalités des régions qui ne sont pas toutes les mêmes. La Bretagne n'a pas changé de périmètre.
Non, en
effet. Donc elle est très bien comme ça, on ne va pas y toucher. La Haute et la Basse Normandie sont devenues la Normandie. Bon, je crois que ce n'est pas choquant, il y avait une entité quand même partagée. Après, moi je pense qu'il y a quand même d'autres grandes régions où c'est problématique. La Nouvelle-Aquitaine, les gens
Aucun
qui sont
sens.
Là-bas, ça n'a pas de sens. Quoi.
Aucun sens.
Aucun sens.
Je veux redire ici qu'il reste 6 jours pour aller voter. Pourquoi je le redis? Je le redis parce que c'est une question qui m'importe beaucoup. J'en ai déjà parlé précédemment dans une autre émission. J'écris souvent là-dessus sur mon compte Facebook. On est dans une époque où, comme tu l'as dit, l'abstention est très très forte. Et je demande vraiment aux auditrices et aux auditeurs d'aller voter, de prendre leur téléphone portable, leur ordinateur et d'aller voter ou de venir au siège des différentes institutions de la CEA pour aller voter. Parce que je pense que c'est une chance de pouvoir s'exprimer. Alors, allez voter parce que dans d'autres régions du monde, on ne peut pas voter. Donc rien que pour cela, allez voter blanc, rouge, vert, comme vous voulez, mais allez-y.
Et vous savez, on va renouveler la marque de fabrique de la collectivité romaine d'Alsace. Ce sera de consulter régulièrement les Alsaciens sur des sujets importants.
D'accord.
Ça, c'est pas seulement l'histoire
Tu reproposeras des consultations.
Nous reproposerons avec mes collègues des consultations. Vous voyez, par exemple, on réfléchit aujourd'hui sur la taxe poids lourd qui devrait pouvoir nous être autorisée. Donc, ça, c'est un sujet important. Il y a des enjeux autour de l'énergie, il y a des enjeux.
Tu sais déjà quelle est la prochaine consultation ?
Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais je pense qu'autour de la taxe poids lourd, ce sera sans doute une des questions qu'on pourra évoquer, on pourra en discuter à un autre moment.
Alors, pour terminer sur la question de la consultation, j'ai une suggestion à te faire. Tu as fait un tour d'Alsace en 80 jours.
C'est cela.
Bon, ben moi, je te propose d'en refaire un deuxième en 80 heures, d'accord ? En refaisant les 80 étapes, en 80 heures pour aller convaincre encore et encore. Il te reste encore le temps de le faire, hein. Ok ? Et si tu t'engages là-dessus, je te suis pendant les 80 heures.
Oula, alors faudra qu'on regarde, mais j'ai l'impression de le faire tout le temps, hein, d'ailleurs. Ce matin, par exemple, j'étais au marché de Mutzig pour aller justement échanger avec
un
consul.
C'était un peu une boutade.
Oui. Mais je peux vous dire, 80 jours, c'était quand même passionnant. Et je m'enrichis des échanges avec nos concitoyens, ils sont formidables. Mais c'était quand même éprouvant.
D'accord. Parlons maintenant de certaines questions d'actualité concernant la CEA. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'une compétence en fait de la CEA qui est pour moi était totalement méconnue. C'est la question mémorielle avec ce projet magnifique qui avait été lancé par toi et par Brigitte Klinkert au lendemain des croix gammées au cimetière de Quatzenheim, il me semble, en février 2019. Ça s'appelle, vous avez lancé cette initiative qui s'appelle Veilleur de mémoire, où il y a aujourd'hui une trentaine de personnes. Un peu plus.
Non, en fait, il y a à peu près 80 veilleurs.
Ah, pardon. Alors,
80. Mais on a honoré, je pense que l'erreur vient peut-être du fait qu'on a honoré récemment 26 d'entre eux.
Et je veux partir de ça pour dire qu'il me semble qu'au lendemain des commémorations de la libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier, lorsqu'on sait que beaucoup de jeunes n'ont pas entendu parler de la Shoah lors de leur scolarité, que des profs ne peuvent aborder des sujets géographiques ou historiques sur le judaïsme, Israël. Puisque la CEA s'est emparée de cette question fondamentale de la mémoire, je suis convaincu qu'un autre grand chantier serait d'investir massivement dans les voyages scolaires dans les camps. Tu as été élu de Schirmeck, où le camp de Schrutthof était de ton évidemment dans ta région, mais aussi des voyages scolaires à Auschwitz, dans d'autres camps de concentration, parce que je pense que c'est devenu aujourd'hui un enjeu, mais alors absolument majeur. L'éducation nationale ne remplit plus son rôle de transmission de la mémoire. Il reste donc à qui pour relever ce défi? Il reste les parents qui ont totalement démissionné. Il reste les institutions, il reste les élus. Et là, je pense qu'il y a un vrai chantier. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je suis très sensible à cette situation pour d'abord historiquement par ma terre natale, hein, la Veille de la Bruche, puisqu'à Schirmeck, il y avait un camp de redressement, hein, où beaucoup de dizaines de milliers d'Alsaciens ont été incarcérés, blessés, même tués dans ce camp, et le camp du Struthof. Vous savez, quand j'ouvrais les volets le matin dans ma chambre familiale, je voyais la flamme du camp du Struthof.
Ah, oui.
Et donc, j'ai toujours eu en tête cette expression d'Elie Wiesel, oublier, c'est se choisir complice. Et donc, quand je suis devenu maire de Schirmeck, je me suis bagarré pour qu'on fasse le mémorial de l'Alsace-Moselle, pour expliquer les spécificités de la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire alsacien et pour justement développer le devoir de mémoire. Et donc, avec d'autres, hein, on a œuvré pour cette réalisation. On a œuvré aussi pour le Centre européen du résistant déporté au camp du Struthof. Et nous finançons les voyages scolaires des classes, aussi bien au mémorial d'Alsace-Moselle qu'au camp du Struthof. Bon, la période aujourd'hui du Covid a un petit peu perturbé ces voyages. Mais on finance aussi des actions pour bien sûr aller sur les autres sites mémoriels européens, parce que pour nous c'est effectivement fondamental. Et on a mené des actions. Je fais un petit coucou à Eric Elkoubi, avec qui on a travaillé sur ces sujets, qui était conseiller d'Alsace auparavant. On a travaillé sur ces sujets-là parce que pour nous c'était effectivement très important. Et les veilleurs de mémoire, je tiens à rendre hommage à ces bénévoles, une 80 d'entre eux qui veillent sur les cimetières. Et c'était une souffrance pour nous de voir ces cimetières profanés. Donc on est à la fois veille sur les lieux, mais aussi veille sur les consciences. Et donc tu as tout à fait raison de dire que il faut qu'on sensibilise les jeunes générations très tôt sur ces questions. Et pour moi, c'est aussi ça le renouvellement démocratique. C'est la République et les valeurs. Il faut qu'elles soient respectées.
On va passer, après cette question très grave, à une autre question qui a fait l'actualité la semaine dernière. C'est l'action sociale si importante pour la CEA. C'est une question qui m'intéresse particulièrement et je suis toujours un peu atterré que le RSA, qui est un revenu en fait évidemment de subsistance, mais aussi de réinsertion, normalement. C'est Michel Rocard qui l'avait créé initialement, l'avait vu dans ce sens-là. Ne doit-il pas, le RSA, être conditionné à des devoirs? Alors, la Cour des comptes a pointé la semaine dernière la faiblesse de l'accompagnement des bénéficiaires. Cette question des devoirs et des droits me semble absolument centrale aujourd'hui. Elle met en exergue le rapport de la France avec la valeur travail, en fait. Ce mot est devenu presque tabou. Alors que pendant des millénaires, on a enseigné les bienfaits du travail à nos enfants, comme valeur cardinale, notre époque nous amène à travailler de moins en moins. Et surtout, on refuse de voir le travail comme une valeur positive et d'intégration. Pour beaucoup de gens, et je me permets de le dire, de plus en plus d'extrême gauche, disons-le, le travail est une punition, une prison. On a la chance d'avoir une ministre, Brigitte Klinkert, qui travaille tous les jours sur la question de l'insertion par le travail.
Tout à fait.
Qui a aussi fait scandale en demandant, il y a plusieurs années déjà, que les bénéficiaires du RSA acceptent une contrepartie. J'aimerais savoir ce que tu en penses et si... il y a des projets justement pour amener les bénéficiaires à exercer leurs devoirs, en fait.
Alors, juste pour le contexte, aujourd'hui en Alsace, du nombre de bénéficiaires du RSA et du coût. Aujourd'hui, il y a à peu près 42 000 bénéficiaires du RSA en Alsace. Le budget que nous y consacrons, c'est 270 millions. Donc, c'est un budget très, très, très important.
La part sur le budget global ?
Alors, c'est 10%, un peu plus de 10%, un peu plus de 10% du budget global de la collectivité. Mais d'ailleurs, l'action sociale, puisqu'on commence avec la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, le RSA, le soutien au monde de handicap, aux personnes âgées, tout ça, c'est plus d'un milliard que la collectivité européenne d'Alsace consacre pour aider les personnes les plus fragiles. Donc, moi, je défends ce que j'appelle la bienveillance responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire tout simplement, personne au bord du chemin, et aujourd'hui, il faut qu'on s'assure que tous nos concitoyens aient le minimum à vivre. Se loger, se chauffer, manger, les fondamentaux de la vie, il faut les garantir. Donc, on doit être dans cette logique-là. Mais je partage votre analyse sur le fait d'abord, sur deux choses. D'abord, j'ai expliqué pendant 80 jours, parce que beaucoup de gens veulent plus de services. Ils veulent plus de services publics, d'aide publique, ils veulent plus d'équipements, etc. Alors, moi, j'ai quand même expliqué une chose. Pour pouvoir distribuer de la richesse, c'est-à-dire des services publics, des équipements, etc., il faut commencer par produire de la richesse. Et si on ne produit pas plus de richesses, on ne pourra pas distribuer plus. Et aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens, puisqu'on vit de plus en plus endetté, tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, il y a un principe de base, on ne peut pas distribuer des richesses qu'on n'a pas produites. Et donc, et pour ça, il faut travailler, il faut s'engager. Et on est tous, je crois, attachés à notre État-providence, notre société-providence. Mais si on veut la maintenir, il faut que les gens travaillent voilà. plus. Et moi, je répète à nos concitoyens que face à tous les enjeux de la société, on a besoin d'engagement de tout le monde. Et on ne peut pas se passer d'un seul talent. Chacun a un talent à porter à la société. Totalement. Et donc, il faut absolument que les gens travaillent. Sinon, notre société de providence ne pourra pas perdurer.
Est-ce qu'aujourd'hui, la CEA exige des contreparties au RSA ?
Alors, oui. Alors, parce que le RSA... ce sont des droits, mais aussi des devoirs. Et c'est ce que nous, on appelle le juste droit. Donc, le juste droit, c'est quoi ? C'est le RSA. Alors, selon qu'on a en charge de famille, etc., c'est autour de 500 euros, si vous voulez. Alors, c'est vrai que c'est une somme assez modique pour vivre décemment. C'est pas facile de vivre avec cet argent-là.
C'est l'État qui définit ce montant.
Alors, c'est l'État qui définit ce montant. Et ces dernières années, si vous voulez, l'État elle a augmenté le RSA, mais c'est les départements qui ont dû payer. Oui. On s'est retrouvé de plus en plus avec des coûts coincés, puisque le nombre de bénéficiaires du RSA, la crise a fortement augmenté. Et la difficulté qu'on éprouve aujourd'hui, c'est que moi, je voudrais que... Et d'ailleurs, le président de la Cour des comptes l'a dit récemment, M. Moscovici, le problème du RSA, c'est aujourd'hui qu'il n'est pas suffisamment décentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, les départements doivent payer, mais on n'a pas la main sur l'ouverture des droits, c'est la caisse d'allocation familiale. On n'a pas la main sur la formation, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéficiaires de RSA qui ne sont pas suffisamment formés. C'est la région.
C'est la région.
Quand je dis que je veux m'occuper d'économie, la loi NOTRe veut nous empêcher d'écouper. Oui. Et moi, si je m'occupe d'économie, c'est soutenir l'entreprise, c'est soutenir l'emploi, c'est réduire le nombre de personnes en pauvreté.
En fait, c'est exactement comme si dans un foyer, monsieur s'occupait des dépenses et madame s'occupait des ressources.
Oui.
Voilà. Et que ça ne peut pas marcher. Ouais. On fait les deux en même temps. Bah, on les gère ensemble.
Sinon, ça ne fonctionne pas.
Voilà, ça ne fonctionne pas. Eh ben, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on fait là. Ça m'a toujours choqué.
C'est notre bagarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir les chiffres, etc., ça a été très, très compliqué. Alors, petit à petit, on évolue là. Par exemple, aujourd'hui, dans l'enjeu de la responsabilité de nos concitoyens, avant, avec l'inscription numérique, parfois, il se passait... 3-4 mois sans qu'on sache que les gens bénéficiaient du RSA. Donc, ils bénéficiaient du RSA sans qu'on les voit. Là, on a baissé ce temps de latence à 28 jours. On est passé d'une centaine de jours à 28 jours. Donc, et si les gens ne viennent pas, immédiatement, on leur enlève le RSA. Il faut parce qu'on est dans l'exigence. C'est de l'argent public, c'est l'argent du contribuable.
Évidemment.
Il faut le respecter. Mais en même temps, c'est, je vous dis, la bienveillance. On aide les gens, mais en même temps, il faut aussi que les gens soient responsables et s'impliquent. Sinon, on va casser notre système social, il va disparaître.
Je pourrais continuer des heures sur ce sujet.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Vraiment énormément, énormément.
Tu as raison.
On va parler maintenant d'un autre sujet extrêmement intéressant, qui rejoint, je trouve, l'histoire de la consultation. En fait, nous allons parler du fameux GCO et de ces fameux panneaux de signalisation. Alors, je dois dire que Éric Vial a fait un article sur Facebook sur ce que moi j'estime un petit peu cette tartufferie et il a explosé les compteurs. Il a eu 16 000 partages sur son article.
Extraordinaire, Éric. Moi, je l'adore.
Absolument. On le salue. 16 000 partages. Facebook a cru qu'Éric lançait une plateforme concurrente. Facebook a appelé Éric. Ils n'ont jamais 16 000 partages.
D'accord.
Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire, c'est très intéressant, très intéressant. Ça rejoint les 100 000 et plus qui vont venir voter par rapport aux 30 000 votants pour... Ce 16 000 montre l'incompréhension de nos concitoyens. Et là, ils sont intéressés. Et là, ils s'intéressent à la chose publique. Ce qui agace par contre les gens, c'est la technocratie. Quand on se rend compte d'une erreur ou d'une incompréhension, pourquoi est-il impossible de la corriger aujourd'hui en France ? Là où même le ministère des Transports affirme qu'il faut corriger le tir, rien ne change. Alors, je compare cette question à celle de ta consultation. Tu as fait preuve d'un volontarisme très fort. tu as passé outre tous les écueils, les interdits même, on peut le dire. Alors, pourquoi pas là ? Pourquoi pas sur cette question ?
Alors, sur la question du grand contournement ouest, effectivement, et je vous dis que ça a été, je ne le cache pas, pour moi, une surprise de voir que la signalisation, finalement, encourageait les gens au nord et au sud, finalement, à passer par le GCO pour ensuite aller dans Strasbourg.
Incroyable.
Et effectivement, alors, du coup, quand j'ai découvert cela...
Comme
tout le monde, quoi. Hein, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est, effectivement, ça n'a pas de sens. Alors, quand on a discuté avec Josène Chevalier, notre préfète, avec qui j'ai une relation vraiment de qualité, c'est une préfète extraordinaire que nous avons sur le territoire et qui est à l'écoute, elle me dit, mais vous aviez été, les collectivités, consultées sur le sujet. Mais on avait été consultés il y a plusieurs années.
Oui.
Et uniquement les techniciens, dans une époque où nous n'avions pas la responsabilité de la route. Et donc, du coup, les services à l'époque n'avaient pas vu que ça aurait cet impact-là.
Oui. Et c'était il y a plusieurs années. Et la bêtise. Ils n'avaient pas vu ou ils avaient vu.
Franchement, ils n'avaient pas vu.
Mais ce n'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui.
Alors justement, j'y arrive. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai vu cela, effectivement, j'ai tout de suite missionné les services de la collectivité en leur demandant est-ce qu'il y a des solutions différentes pour que, effectivement, moi, je considère que ce soit les Alsaciens, une fois qu'ils sont fait prendre une fois, je pense qu'après, ils connaissent le chemin.
Oui, probablement.
Après, il y a les touristes. Pareil pour les touristes. Moi, je préfère que les touristes, ils aillent dépenser leur argent dans la vie touristique. Je finis. Pardon. Dans la vie touristique que sur les routes et sur les péages. Donc, moi, j'ai proposé... mes services ont travaillé et ensuite, j'ai proposé... Il se trouve que j'en ai parlé déjà avec Madame la Préfète, avec Josiane, et j'ai écrit formellement avec deux propositions, c'est-à-dire en amont et en aval... Qu'on dirige les voitures, je ne parle pas des camions, mais qu'on dirige les voitures ceux qui viennent du sud, prendre direction Ilkirch, prendre direction
pour
arriver.
Mais pourquoi c'est toujours pas fait ?
Parce que je sais qu'il y a cette lenteur qui parfois désespère, donc aux citoyens, elles me désespèrent aussi souvent. Mais là, je ne suis pas le seul à décider. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des propositions, j'ai dit que la collectivité pouvait mettre ses panneaux, mais ça suppose un accord avec d'autres partenaires. J'en ai parlé aussi avec la présidente de Nord Métropole, qui est d'accord aussi sur le principe. Mais il faut aussi, puisque c'est une règle qui s'impose à nous, que ce soit validé par les services de l'État. Et donc, sauf faire de ma part, tu vas bientôt voir Josiane Chevalier. Il faut que tu lui en parles aussi. Mais en tout cas, sache que moi, je porte cela parce que ça, c'est du bon sens.
J'ai une suggestion à faire. Elle est un peu, c'est une petite boutade, mais quand même, ça, voilà, j'ai travaillé toujours dans le privé. Parfois, quand il y a des problèmes qui se posent, on va un peu plus vite pour les résoudre. Moi, j'ai une suggestion, elle est en fait assez sérieuse. Elle ferait le tour de la planète médiatico-politique. Je te propose, ensemble, là, maintenant, on va dans tes ateliers, on prend une échelle, on prend un pot de peinture et on va tous les deux, là, changer les panneaux. C'est un acte illégal, d'accord ? Il est illégal. Ta consultation, elle l'est pour certains aussi. Et quels sont les risques que nous encourons ? Hein ? À mon avis, ils sont dérisoires par rapport au sens de l'action.
Alors, il se trouve que j'ai fait quelque chose un peu du même type quand j'ai réintroduit les 90 km/h dans certains axes où le 80 km/h, pour moi, n'avait pas de sens. Il y a eu des endroits où on est passé du 90 au 80 et il y a eu plus d'accidents à 80 km/h qu'à 90. On a pu le prouver. Donc là, je me suis battu pour que certains endroits, notamment dans les longues lignes droites avec grandes artères, 90 était plus cohérent parce que les gens à 80 km/h, ils font plus attention. C'est là qu'ils regardent leur portable et le risque d'accident est le plus important. Donc, j'ai déjà fait ça. Mais je l'ai fait quand même progressivement dans un cadre, etc.
Bien sûr.
Je crois que j'entends cette volonté d'aller vite. Mais moi, j'ai un partenaire qui s'appelle Josène Chevalier.
Bien sûr, oui.
Avec qui, franchement, je travaille bien. On a fait énormément de choses ensemble. Elle a été toujours facilitatrice. Donc, J'entends cette volonté d'aller vite, mais je veux quand même être dans le respect. Vous savez, à un moment donné, un jour, je tiens quand même à le dire, un jour, j'ai failli descendre avec les camions de déneigement du département du Bas-Rhin, bloquer le périph'. Parce que j'avais un point de désaccord très important et j'avais été, pas été respecté par un préfet. L'Alsace n'avait pas été respectée par un préfet.
Et donc là,
et là du coup, je me suis... Mais là, on a une préfète qui sait la notion. Donc du coup, je me dis, certes, je préférerais aller vite. J'ai tout de suite réagi quand dès qu'il y a eu les premiers messages sur les réseaux, j'ai appelé ma professeure, c'était avant Noël, et je lui ai dit, il faut qu'on revoie ça. Oui. Donc on y travaille et j'ai bon espoir qu'on y arrive.
Ma suggestion était juste un petit peu d'alerter les politiques sur les attentes des citoyens.
D'accord.
Alors maintenant, un autre sujet très politique, avec un grand P. Je me dois de parler de la mairie de Strasbourg et de la maire. Strasbourg est dirigée par Madame Barzéguian depuis 18 mois. Et depuis 18 mois, son mandat a été ponctué, selon moi. C'est un point de vue personnel, mais partagé par beaucoup de monde, de toute confession. Ponctué par de nombreux faux pas à l'endroit de la communauté juive. Le premier, ça a été la résolution de l'IHRA, qui n'a pas été votée, sur la nouvelle définition de l'antisémitisme. Puis, par exemple, dernièrement, l'absence d'hommage le 27 janvier, à l'occasion de la libération du camp d'Auschwitz. Aucun hommage de la mairie de Strasbourg, alors que Strasbourg est une ville quand même emblématique d'un passé si douloureux, de prise de position parfois très douteuse d'élus de la majorité, de son absence lors de l'hommage à Sarah Halimi, mais aussi de l'avocate missionnée par la mairie pour former les cadres de l'Eurométropole à la lutte contre la radicalisation. En sachant que cette avocate défend, elle a fait son fonds de commerce, c'est comme ça que les médias parlent d'elle, a fait son fonds de commerce de la défense des femmes qui veulent revenir de l'État islamique en France, à l'encontre de toutes les politiques contre la radicalisation. On marche sur la tête. On peut se demander d'ailleurs si elle n'a pas fait des missions dans d'autres collectivités tenues à Grenoble, etc., etc. Comprends-tu, Frédéric, mon inquiétude et penses-tu, c'est vraiment une question politique et pas polémique, que les institutions, la CEA, la région, l'État, et je sais que Mme Chevalier est très sensible à ces questions-là, doit endosser un rôle de vigilance face à la mairie de Strasbourg?
Alors, c'est vrai qu'on a été surpris d'abord et choqués par certaines décisions, et notamment la délibération qui a été refusée sur la définition.
Oui.
Et j'avoue que immédiatement, nous, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, pris cette délibération de soutien à l'expression. Et j'étais très fier que ce soit à l'unanimité.
Bravo.
De la collectivité européenne d'Alsace. Je suis très attaché aujourd'hui au Concordat. Je pense qu'aujourd'hui, face à toutes les tensions que vit notre société, pouvoir s'appuyer sur les confessions religieuses et le lien entre les confessions religieuses est fondamental. Et le respect de chaque confession religieuse. Je suis très ami avec le grand rabbin.
Harold est un gars truculent.
Et je l'adore, je dois vous avouer.
C'est pas un gars, c'est un rabbin. Excuse-moi Harold, c'est un rabbin truculent.
Je l'adore, on se tutoie, tu vois, aussi. J'aime beaucoup échanger avec lui, sa simplicité, en même temps son intelligence. Et on a besoin aujourd'hui du grand rabbin, de l'archevêque, du président des protestants. Enfin, j'encourage le travail entre toutes les confessions, parce que j'ai parfois peur pour la paix sociale dans notre société. Et les tensions sont de plus en plus vives. Moi, j'ai pensé, quand à l'époque j'ai travaillé pour faire le mémorial, le Centre européen du résistant déporté, je pensais qu'on avait fait le plus dur pour préserver les sensibilités, toutes les sensibilités religieuses. Et moi, vous savez, je suis de confession catholique, mais la foi, elle m'aide dans mes choix. Elle m'aide dans mes choix, dans les valeurs de respect, de tolérance. Et c'est ce que j'attends, moi, de l'ensemble des élus, c'est d'être dans ce respect.
Et par rapport à la mairie de Strasbourg, par rapport à ses prises de position, y a-t-il une vigilance ?
Nous, on a tout de suite réagi pour justement, dans le respect justement de la confession juive, on a tout de suite réagi, nous, en prenant une délibération forte sur le lendemain. Donc on est dans cette vigilance, et c'est des choses qu'on évoque aussi avec Madame la Préfète. On veut bien évidemment... Alors, on a la communauté juive, elle est forte à Strasbourg. Et on a envie qu'elle se sente heureuse et apaisée à Strasbourg. Et donc on sera en soutien toujours pour garantir cela.
Parfait. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Je pense assez...
Merci à toi, c'était très très sympa.
Merci. Je vais terminer par une petite page de pub, j'en parle à chaque fois. Je voudrais t'inviter à t'abonner à un journal local qui s'appelle Le Torchi, qui est tenu par Sylvia Oussadon, qui est une dame truculente aussi. Le Torchi, c'est un média en ligne qui est en fait un grand canard enchaîné local et qui a une signature, un ton qui fait absolument rafraîchissant et qui fait du bien. Tapez vraiment letorchi.com, abonnez-vous, c'est 5 euros par mois. C'est pas de la publicité que je fais, c'est en fait promouvoir en fait la liberté de la presse, et Dieu sait si aujourd'hui c'est important. Et nouvelle tradition dans ce nouveau rite, dans cette émission, on va terminer. Donc merci donc beaucoup.
Merci.
Et
merci.
Je donne la parole à notre technicien qui m'accompagne dorénavant, qui s'appelle Sacha. Et je vais lui demander de te poser la dernière question.
Alors, est-ce que à 12 ans, vous pensez déjà faire de la politique plus tard ?
Alors, merci Sacha. D'abord, je suis très heureux que Sacha nous accompagne. Et je suis très heureux quand les jeunes générations s'intéressent à la vie politique. Et j'ai découvert que Sacha, ça le passionnait. Alors, moi, je n'ai pas commencé à 12 ans. Mais je peux te dire qu'à 15 ans, mon rêve, c'était de devenir maire de Schirmeck. Et j'ai eu cette chance-là, cet honneur-là de représenter les Schirmeckois, d'être élu et d'être choisi par les, pardon, par les Schirmeckois. Et j'ai beaucoup appris en étant maire. Alors j'ai eu de la chance, des rencontres, un engagement fort grâce à mes parents, aux personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai pu exercer cette fonction qui était merveilleuse et qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Mais j'avais très tôt la passion de l'action publique. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que quand j'avais à peu près ton âge, malheureusement, mes parents se sont retrouvés au chômage. Et je trouvais que c'était profondément injuste parce que toutes les entreprises textiles fermaient dans la Vallée de la Bruche, à Schirmeck à l'époque. Et tous les deux travaillaient dans le textile. Et je me suis dit, c'est injuste. Je m'engagerai dans l'action pour éviter que ces injustices ne se reproduisent pas. Alors, je n'arrive pas toujours autant que je voudrais, mais ça a été pour moi, ça a été, je pense, un fil conducteur. Et très tôt, je me suis intéressé. Donc, il faut que tu t'intéresses, parce que vous savez, je tiens quand même à le dire aux auditeurs, la politique, c'est noble. Parce que parfois, les gens critiquent la politique. La politique, c'est noble. C'est parfois ceux qui l'exercent qui ne sont pas nobles. Mais la politique, c'est noble, et c'est essentiel pour notre société.
Et est-ce que vous pensez un jour vous présenter aux élections présidentielles ?
Non, clairement non, il faut connaître ses limites.
Merci beaucoup Frédéric, merci. Merci Sacha, et à une prochaine émission mercredi prochain. Merci
à tous les deux.